N'est-ce pas, les chants sont importants, hein, au début d'un culte. Hein? La louange nous amène auprès de Dieu. Et c'est ça, c'est fantastique. Mais alors, j'ai l'habitude de vous voir le mercredi. Là, je vous vois le dimanche. Alors ça, c'est bon. Mais n'ayez pas peur, parce que le monde est en arrière. Hein? Mais n'ayez pas peur, vous allez être bénis, je crois. j'avais regardé quelque chose dans ma poche. Vous avez parlé de participation, peut-être bien que juste le début, vous avez parlé de participation, ce que tout le monde a participé pour votre programme de Noël. Je lisais un jour une histoire d'un missionnaire qui était en mission dans une église où il n'y avait pas de courant ni rien, mais tout le monde le soir arrivait à l'assemblée avec leurs chandelles. Et comme ça, tout le bâtiment était éclairé par la chandelle. Pour les gens qui avaient apporté la chandelle. Et quand ceux qui avaient décidé de ne pas venir, alors la clarté baissait parce qu'il manquait de la lumière. Simplement pour dire que votre présence est ici comme une lumière qui éclaire parce que vous avez une soif et un désir de vouloir. Puis deuxième chose, je suis là parce que j'avais pris une petite note parce que je vieillis puis je manque de mémoire. Le cantique « Je suis heureux » en premier. Alors, vous avez chanté ça, hein? Le premier cantique, « Je suis heureux » et j'espère que ce chant est vrai, que vous êtes heureux ce matin. On n'a pas de raison de ne pas l'être. Malgré ce que nous vivons, la joie, c'est quelque chose que le Saint-Esprit nous donne et qui s'exprime dans nos cœurs. Alors, c'est ça. Et puis le dernier, elle a pris trois des notes dans le coin. C'est pratique, pareil, une poche. « Je voudrais te dire, je t'aime. » Je voudrais te dire, je t'aime. Savez-vous que cet amour-là, ça vous pousse à demeurer fidèle en retour? Parce que je vous ai dit une fois, pour aimer, il faut deux personnes. Un qui aime et l'autre qui reçoit. Jésus-Christ est venu nous témoigner son amour envers nous, en venant mourir, en naissant premièrement. Et il y avait dans cette chose-là que j'avais trouvé une réflexion, une méditation, pas une méditation, mais une réflexion sur ça. Je l'ai déjà partagé, c'est peut-être un mercredi, peut-être que oui, sinon ça sera la première fois. Mais l'effet que Jésus est l'un qui donne, on sait Jean 3,16, car Dieu a tant aimé, il a donné, on ne peut pas avoir plus grand amour que ça, pas vrai? Alors, mais il y avait une autre réflexion aussi, celui qui reçoit. Il a donné, mais si je ne le reçois pas, cet amour-là, l'amour ne sert à rien. Mais on n'a pas de raison de dire que je ne suis pas aimé. Et on est aimé parce que Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Et ce matin, on veut se rappeler encore que s'il y a cela, un message. Et puis il y avait juste cette réflexion-là, la deuxième réflexion, c'est qu'il y avait Martin Luther King, a dit, Luther, s'avère être une femme, Marie devait être une femme de foi. Et Martin Luther souligne trois miracles dans cette chose-là. Dieu devient homme, premier miracle. Le divin devient homme sur la terre. Le premier miracle s'est manifesté. Et le deuxième miracle, une vierge conçue par le Saint-Esprit. Alors, un autre miracle, juste dans la naissance. Et puis finalement, le troisième miracle, on a vu que Marie a cru que Jésus l'avait choisi pour porter l'enfant Jésus dans son sein. Pas vrai? Alors, juste cela, c'est déjà extraordinaire. Elle a obéi et ça nous amène toujours à chacun de nous ce matin de croire que la bénédiction va me pousser, je crois, à la louange ce matin. Je vous invite, dans le psaume de notre méditation ce matin, le psaume 63. Le psaume 63 est un psaume assez spécial parce que c'est un psaume où, quand tu lis ce message-là du psaume, ça nous coupe le souffle. On a parlé de louange tout à l'heure. Mais on va aller, si vous avez vos Bibles, c'est encore mieux, mais sinon on va user l'écran. Où qu'on dit le psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ai-je ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, comme ce matin. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée, comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. On voit ici, dès le début de ces cinq premiers versets, un homme, en tous les cas, un homme qui est, on pourrait dire, vous savez un peu le contexte, c'était écrit, hein, ce psaume-là. Hein. C'est que David, qui vivait dans un palais, et qui voit là que son fils Absalom désire avoir le trône de son père, et là, il désire assassiner son père pour pouvoir prendre le trône. Et là, David est fui dans le désert avec toute sa troupe. Il fuit parce qu'il ne veut pas avoir la guerre, il ne veut pas que le sang se coule, il ne veut pas entendre les pleurs dans la ville de Jérusalem. Il a décidé de fuir. Et cette image-là me coupe le souffle parce que comment est-ce que David, habitué dans le temple de l'Éternel en train de le louer, et le voilà épris dans le désert, avoir cette soif-là dans ses premiers versets quand il dit dans le désert, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Il est dans le désert, il est dans une caverne. Il cherche un endroit, il se souvient quand il était dans le temple de Dieu, il louait son Dieu. Mais il le loue là présentement parce que déjà il a goûté c'était quoi avoir la louange de Dieu, avoir la reconnaissance, mais aussi avoir une âme remplie de la présence de Dieu et de pouvoir le louer, un peu comme nous allons faire ce matin. Et là, dans ce moment-là, on pourrait dire, c'est un homme qui a épanché son cœur à Dieu. Il ouvre son cœur à Dieu. Vous savez, de ces moments-là, des fois dans la maison, vous avez le désir de crier à Dieu. Et là, dans la solitude, rien de mieux que ça pour crier. Personne ne t'entend, si ce n'est que les anges de Dieu, puis Dieu lui-même entend ton cri de désespoir. Mais sa fin de Dieu, la situation où il se trouve, ce n'est pas une situation qui l'empêche de louer Dieu. Mettez-vous à sa place. Vous êtes chez vous, et tout d'un coup, on décide, t'entends, il veut enlever ta vie. Fuyons! Parce qu'Absalom est décidé, fuyons, allons-nous-en pour pas qu'il y ait la guerre, on va fuir. Et là, tu es habitué à être chez vous dans ton salon pour le louer, mais là, tu te ramasses en camping. David se trouve en camping, pas vrai? Parce qu'il est dans le désert, il est caché dans une caverne, parce qu'il ne veut pas être trouvé. Mais là, néanmoins, il est dans une caverne, mais son cœur est dans la présence de Dieu. Et là, il trouve le moyen de louer Dieu, à cause de cette intimité qu'il a avec Dieu. Il a eu cette intimité, pas au moment-là, parce qu'il avait déjà, il a goûté que c'était avoir une intimité avec Dieu. Il savait ça. Et que le fait qu'il a la force de le louer ce matin, quand il a écrit ce psaume-là, c'est que déjà il avait goûté, c'était quoi? La louange et avoir la présence de Dieu dans son âme. Avoir une âme rafraîchie. À être en communion profonde avec Dieu lui-même. Et là, dans ce désert, il avait dit, « Mon âme a soif, mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée sans eau. » Il aspirait à ça. Je n'ai jamais eu soif à ce point-là, moi. Mais reste que je peux comprendre quand tu es dans le désert et tu étouffes. Il fait chaud, tu étouffes. Tu dis, « J'aurais besoin juste d'une goutte d'eau, simplement pour rafraîchir ma langue. » Et c'est là que ça nous amène ce matin dans cette chose. L'autre jour, je lisais une petite anecdote. Tout probablement que vous l'avez déjà entendue, sinon ce sera la première fois. Mais reste que dans cette anecdote, on appelle l'araignée. Avez-vous déjà entendu cette anecdote, l'araignée? Eh bien, c'est un serviteur de Dieu qui s'appelle Félix de Nola, fuyait un jour devant quelques truands qui manifestèrent, avaient résolu de porter atteinte à sa vie. Tout en courant, il cria à Dieu, implorant son secours. Quand tu fuis, Seigneur, viens, secours-moi. Alors, tout en courant. Finalement, il trouva un refuge dans une cave. À peine a-t-il fermé la porte qu'une araignée se mit à tisser la toile sur la serrure. Une grosse araignée. À rendre à son travail. À faire. Il dit, quand les poursuivants arrivèrent à cette maison, l'un d'eux s'apprêta à inspecter le sous-sol. Mais apercevant la toile d'araignée sur la serrure, il renonça à l'inspection de cet endroit, pensant que si personne n'ait pu entrer dans cette porte sans déchirer le frêle rideau de soie, alors il n'est pas là, hein, parce que sinon, il aurait enlevé la toile. Et là, l'agresseur a passé tout droit et puis a fait la remarque de ceci. Une toile d'araignée devient un mur quand que Dieu est là. Mais où il n'est pas, un mur n'est qu'une toile d'araignée. N'est-ce pas? Et c'est vrai. Peu importe les filets fins, mais le cri en l'Éternel. Parce que si tu regardes dans le psaume 118, tu n'as pas ces passages-là, notre sœur. Mais du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire un homme, des hommes, quand l'Éternel est présent? Il y avait l'autre verset qui avait tenu dans Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Alors, voilà un peu l'araignée. Et parfois, on a besoin que le Seigneur vienne mettre, on pourrait dire, sa toile d'araignée sur nos problèmes. Mais il avait cru, il croyait en Dieu. Avant de savoir qu'il était attaqué, il avait une confiance en Dieu. Et c'est pour ça que je dis ce matin, comment c'est important que vous êtes ici, on renouvelle, on vient chercher une fraîcheur de la présence de Dieu dans notre âme. Notre âme est ravie, elle est visitée. Et la question qu'on se pose, qu'on pourrait se poser, c'est-à-dire, qu'est-ce qui produit cette soif à David, en lui? Quel est le... Parce que le but de David, en louant Dieu dans ce psaume 63, c'est qu'il veut avoir un but. Il veut produire des récoltes. C'est assez drôle, hein? Parce que dans notre misère, dans nos difficultés, la louange nous amène à avoir soif de Dieu. Cette soif, elle ne veut pas être juste pour nous, mais cette soif veut produire une certaine récolte. Parce que la terre qui est dans notre âme, qui est nourrie par l'Éternel, le Saint-Esprit, c'est que souvent, il y a besoin d'être arrosé, rafraîchi, mais pour que la récolte, la semence qui a été semée dans le cœur, puisse prendre racine. Enfin, quand arrivent les coups durs, qu'on soit capable de garder cette même attitude présente en nous, de louer l'Éternel. David nous ouvre ici une porte dans sa pensée. Si on pourrait écrire nos pensées, Lundi, on a eu notre soirée à maison pour Noël avec la famille de notre fille. Et puis là, on a fait un genre de jeu, mais un jeu où ce que chacun puisait un mot. Comme ici aujourd'hui, là. Ça arrive sur ça. Ma petite promesse aujourd'hui, je vous la lirai, mais c'est pour moi. Mais elle correspond exactement à ce que j'ai besoin. Alors, Isaïe 58, verset 11, c'est à moi. Je ne vous le dis pas parce que c'est ma promesse pour toute l'année. Mais il y avait un mot qu'on pigeait. Le mot, c'est certain, en tant que pasteur, on avait dit bonté, amour, pardon, grâce, Jésus, tout ça de... Le mot de main, puis ils devaient faire une phrase qui terminait par le mot qu'ils avaient là-dedans. Alors, si tu prends le mot amour, là, tu faisais la phrase. Je suis aimé de l'amour de Dieu. L'amour. Dieu m'a aimé. Et là, tu avais toutes sortes de mots de main, puis on était à peu près 11, puis on avait 11 pensées différentes, avec 11 mots différents. On a fait un deuxième tour, la même chose. On voulait créer un poème. Et le poème de Dieu, à cause de ce mot-là, chacun avait écrit cette phrase-là, et puis là, on a relié la phrase pour faire le poème qui venait nous envahir. Et c'était encourageant de voir que dans ce poème, à cause d'un mot, ils ont suscité cela, et ça a fait quelque chose pour évangéliser. Et c'était un moment, un poème, parce qu'on avait une soif. Ah, la soif. On veut cultiver cette soif-là, ça ne vient pas de seul. La soif, il faut que tu sois privé d'eau, mais si tu aimes et si tu sais puiser de l'eau dans ta parole, alors tu risques de ne pas avoir soif dans la journée. Spirituellement, physiquement, on a besoin de boire. Mais David, l'effet qui ouvre sa pensée, il y a quatre activités dans ce psaume-là, du moins dans ces cinq premiers versets-là. Quatre incitatifs qui nourrissent sa soif de Dieu. Et ce matin, peut-être vous avez un indicatif qui peut nourrir votre pensée de l'amour de Dieu. La première chose, est-ce qu'il y en a ici qui ont monté le mont Carleton? Il y en a-tu ici qui ont monté le mont Carleton? Bon, alors je vous prie de ce que je m'en vais dire parce que vous avez monté. Mais si je veux parler du mont Carleton, c'est important que j'y aille monter. Et quand j'ai monté ce mont Carleton, personnellement, alors quand j'arrive sur le dessus, là, la vision que tu as, c'est infini. Les montagnes, les vallées, on ne peut pas être plus haut que ça, là. Et là, on avait monté là avec une gang de jeunes. Ils disent, il nous faut absolument avoir une rencontre spirituelle de louange à Dieu face à la nature qui se présente devant nous. Alors, aujourd'hui, je pourrais en parler de tous ces sens du mont Carleton parce que j'ai monté. Si vous n'avez pas monté, vous ne pouvez pas en parler. Mais le fait que je vous en ai parlé, peut-être, ce sera une excursion l'été prochain. Allez mettre à part puis allez monter le mont Carleton, si c'est si beau que ça, le mont Carleton. Alors, on pourrait dire, faire ce parallèle, si on veut parler des bénédictions de Dieu, il nous faut les vivre. Et quand on les a vécues, il nous faut les partager. Et David le fait ici, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Il n'est pas le Dieu des étrangers, il dit « Tu es mon Dieu, mon âme, à lui, a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Il a contemplé, mais son sanctuaire, là, c'est dans une grotte. Là. C'est peut-être assis sur une roche, je ne sais pas, assis sur sa roche, puis il a commencé à louer Dieu. Et son sanctuaire était là, là où il a décidé d'être, là où il a décidé de louer Dieu, là dans sa tente. Et c'est ça qui est important de savoir partager. C'est une bonne incitation de passer le mois de jeûne que vous avez planifié. C'est extraordinaire parce que nous savons qu'on n'a rien sans jeûne. Hein? Jésus lui-même, il dit, on a prié pour que cet esprit parte de cet homme. Puis on n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des esprits qui partent que par le jeûne et prière pour avoir l'autorité, la puissance, voir des âmes transformées, d'avoir des résurrections de vie spirituelle pour être capable de rencontrer notre histoire. Et chacun de vous, vous avez votre histoire, le fait que vous êtes ici, ou peut-être que vous êtes en train de l'écrire aujourd'hui, cette histoire. Peut-être que Dieu a un message, a un mot qui va s'échapper de ce qui s'est dit, de ce qui a déjà été chanté. Un mot qui s'échappe et qui vient remplir ton âme, le rafraîchir, lui faire du bien. Quand les choses vont mal de tous les côtés, on a besoin d'une parole qui va venir nous rafraîchir. Pas vrai? J'en ai besoin de ça aussi, moi. Je parle ce matin, mais il a fallu que je me nourrisse avant de pouvoir vous partager, vous dire tous mes sentiments, mes émotions, le désir de vous voir aussi être épanoui, avoir des yeux, tout d'un coup, c'est clair, et puis wow! Vous savez, quand quelqu'un tombe en amour, il n'a même pas besoin de parler. Puis regarde tous les deux, ils ont tous les yeux là, dans la graisse de bine. C'est comprends-tu? Excusez-moi les expressions. Mais on sait tout de suite qu'il aime, il est en amour. Là. Nous, on est en amour avec Dieu. Les gens devraient savoir que parfois, par nos regards, alors, il y a des gens, des fois, ils disent, ah, t'as l'air tranquille, t'exprimes la paix, la tranquillité. Ah, ben, si c'est ça que j'inspire, tant mieux, c'est aujourd'hui, demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on est responsable d'aujourd'hui, hein? Hier, il est trop tard, moi, je n'ai pas vu ce que vous vivez. Mais je vois aujourd'hui, parce que demain ne m'appartient pas. Et c'est pour ça que c'est comment c'est important, la journée d'aujourd'hui, d'exprimer ce que ton âme a soif. Mais une fois que nous avons vu le sommet de la montagne, nous ne pouvons plus nous en passer, plus d'être capables d'en parler. Ici, il y a une couple d'expériences qui nous amène. J'ai déjà peut-être... C'est ça qui est malheureux, parce que ce psaume-là, savez-vous qu'il y a plusieurs manières de l'entrevoir ou de le méditer ou de le réfléchir. C'est la troisième fois que j'étudie ce psaume-là de trois manières différentes et qu'à chaque fois, il y a toujours des choses grandes, surtout ce psaume-là, 63, où ce que, le fait que David ouvre son cœur nous dit c'est quoi une relation avec Dieu. Je me rappellerai toujours de l'expérience de Longueuil que j'ai déjà partagée certainement une fois, soit ici ou ailleurs, mais une expérience où ce que tous les serviteurs de Dieu du Québec, de la France, encore toute la francophonie du monde, la francophonie, les Français, tous ceux qui parlaient français. Et là, c'était une semaine de réveil pour la francophonie. Et là, tu ne te ramasses pas rien que 10, puis 20, puis 3, puis 2. Là, c'est 3, mais avec 2 euros en plus, 300 personnes, là. Plus que ça encore. Alors, il y avait ces gens-là, tous ensemble, on avait le désir, une soif, de voir un réveil dans la francophonie. Nouveau-Brunswick, Québec, en tout cas, il y avait toutes ces places-là, étaient réunies. Et d'un soir, je crois que c'était le samedi soir, c'était David Wilkinson qui était le grand prédicateur de cette francophonie. Et le voilà en train, vers la fin de sa prédication, le voilà qui n'est plus capable de parler. Les larmes coulaient sur son corps, il y avait un fardeau immense sur son corps, il s'est mis à pleurer, plus capable de prêcher. Celui qui fait la traduction lui-même, il a le moton, il n'est plus capable de traduire non plus. Il dit finalement, arrête, faisons arrêter la réunion. La personne qui est montée sur le piano pour commencer à pianoter, lui non plus, il n'est plus capable. Finalement, nous voilà toute la gang. Par la puissance du Saint-Esprit, humiliés devant notre grand Dieu, confessant nos péchés, demandant à Dieu de venir dans sa plénitude nous envahir. Et ça, frères et sœurs, je peux vous en parler personnellement parce que j'y étais. On vous dit, ah! Ça, parce que vous êtes trop sensible, vous êtes... Mais quand tu es sur la conviction du Saint-Esprit, es-tu capable de garder le sourire quand tu es envahi de culpabilité du péché? Tu as besoin de... Savez-vous, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut absolument que tu confesses tes péchés. C'est après la confession que la bénédiction vient. Jamais avant. Et c'est pour ça qu'il y a ces exhortations qui sont là, devant nous, parce que on va voir, là, vous allez avoir, c'est bon, vous allez avoir une semaine de jeûne. Mais savez-vous que dans le jeûne et dans la prière, il y a un mot qui m'énerve. Il dit, quand tu te rends compte, autant pour donner ton offrande que pour avoir une réunion de prière de réveil, il faut avoir un cœur pur. Pas fatigant, ça? Pas avoir d'amertume envers qui que ce soit. Avoir un cœur libéré de toutes les pensées négatives qu'il peut avoir, qui vient empêcher la relation avec Dieu. Avoir un cœur pur. Et quand ton cœur est pur, demande ce que tu voudras, et tu seras exaucé. Un cœur pur. Ceci dit, je vous dis là, c'était quelque chose d'assez spécial. C'est certain que quand tu partages ça dans une église ou ailleurs, « Ah, vous étiez trop sensible. Pense que si tu veux, ce n'est pas grave. Moi, j'étais là. » Et quand tu laisses la conviction, tu n'as pas le choix que d'obéir cette chose. Il y avait une autre chose. C'est pour ça qu'ici que je pourrais en parler plus. Mais ceci dit, ce matin, une autre expérience que j'ai pu vivre, qui était assez spéciale, qui m'a poussé à louer Dieu, c'est quand j'étais étudiant à l'école biblique et j'étais dans un camp en train de... Vu que je suis un bricoleur, j'ai bricolé leur cheminée pour l'hiver. C'était un bord de construction qui était neuf. Et puis là, je suis étudiant à Bethel, j'ai dit, j'ai rien que ma fin de semaine pour aller bricoler cette cheminée-là. Je n'ai pas d'autre jour, on ne s'en dira rien qu'à l'année prochaine. Je suis dans les études par-dessus la tête. Puis voilà qu'on a commencé la cheminée, mais là, vers le soir, vers la fin, il reste à peu près un pied à peu près de cheminée à terminer. Mais là, il mouille, on dit chez nous, il mouille à Sio. C'est pas un petit brumage, là, mais ça tombe. Je pense à dire, ça tombe. On dit, on va aller souper, peut-être après le souper, ça va être arrêté. Mais non, ça continue, puis ça va, il mouille. Et là, il dit, Seigneur, là, il dit, fais une prière, il dit, Seigneur, tu sais, là, c'est pas parce que je veux pas, là, mais j'ai dit rien que cette journée-là. Puis là, avant qu'il fasse noir, il faut que je termine. Tu veux-tu arrêter la pluie, s'il vous plaît? Et là, je dis à celui qui faisait mon mortier, la manœuvre, j'ai dit, prépare, fais du mortier, en montant les briques en haut, puis on va aller finir la cheminée. Il est censé d'arrêter de mouiller. On commence par la foi. On fait le ciment, il mouille, on monte les briques, il mouille. Mais le moment où je commence à vouloir poser pour... Parce que vous savez, ça, tu ne briques pas quand il mouille, hein, le ciment. Et là, il y a un câble. Ça arrête de mouiller. J'ai dit, Seigneur, merci. Là, je vis le miracle de Dieu. Ça arrête de mouiller, là. Mouille ailleurs, mais là, il ne mouille pas, là. Et puis, j'ai terminé la cheminée. J'ai eu le temps de tirer mes joints, faire la tablette sur le dessus, couler sur ça. Puis, un coup, c'est fini. Ouf! Il mouille le restant de la nuit. Ha! Frères et sœurs, comment pas louer Dieu pour parler d'expérience de Dieu? Bien là, j'étais là, c'est moi qui étais le briteur, c'est pas le voisin. On a dit aux hommes, souvenez-vous, quand on se rencontre, t'en rappelles-tu? Oui, mais on ne peut pas parler ça avec d'autres. Tu dis, c'est le hasard, ou c'est peut-être, ah, il avait arrêté de mouiller, il y avait un côté clair. C'est comme tu veux. Mais moi, j'y étais. On a cru, on a agi, et Dieu a agi. Et quand on prie dans ces domaines-là spéciaux, je ne vous dis pas que ça arrivait à chaque jour, à chaque fois. Non, il faut faire attention. Mais que de fois! Mon grand Seigneur a eu pitié de son serviteur. Et là, les faits, quand des fois on conduisait des excursions de canot camping, que de fois il mouillait et que de fois le Seigneur, dans l'intercession, arrêtait de mouiller, puis d'autres fois non. Des fois oui, ça marchait, d'autres fois... Non, vous allez le faire arroser aujourd'hui. Puis une autre fois, ben, on va user de grâce pour vous. Il arrêtait, mais on pouvait manger tranquille. On était dehors, hein? Mais c'est juste pour nous dire, il y a des moments où ces choses-là nous posent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si nous prions, ça m'aide à moi à dire, « Mais Seigneur, si tu m'as exaucé hier, vu que tu es un Dieu qui ne change pas, parce que mon Dieu d'hier est aujourd'hui. C'est le même pour demain. Il ne dira pas, tu vas attendre demain, là. Non, non. Je suis le Dieu d'aujourd'hui. Il y a, on pourrait dire, le fait que David se trouvait dans une caverne, ça peut nous aider à savoir qu'on peut prier à n'importe quel temps, n'importe quel moment, dans n'importe quel trou, hein, où ce que Dieu nous entend et nous crie. Alors, vous aussi, vous possédez aussi des souvenirs. Si ce matin, on pourrait dire, faisons le tour. Dis-moi un souvenir où ce que Dieu a intervenu. Et je crois qu'on ferait tout un poème et on serait tout l'avant-midi encore en train d'entendre comment ce que Dieu a agi dans le moment où on avait eu de besoin et que vous avez crié à Dieu. Le psaume 27, verset 4, psaume 27, verset 4, il y a un mot là-dedans qui est instruit. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quand tu lis ça, là, ça nous donne l'idée de ce psaume 63 que déjà, lui, là, David était imprégné de la présence de Dieu dans le temple. Là où ce que Dieu est honoré, là où ce que Dieu était béni, là où ce que Dieu partageait ses pensées à son serviteur, à ses prophètes. Et David disait, écoute, tu es mon Dieu. Je demande à l'Éternel une chose, je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça va arriver un jour, ne découragez-vous pas. Ça va arriver le jour où les deux pieds vont vous partir sur la terre, là. Vous allez vous ramasser devant l'Éternel. Ça sera pour la vie éternelle. C'est quelque chose, hein? Ça, c'est la promesse qui nous appartient à nous, les enfants de Dieu. Contempler. Je regardais le mot contempler. J'avais quelque chose là. Il y avait le mot contempler. Il dit qu'il a épanché son âme. Il dit ici dans un de ses psaumes, et quand il dit contempler l'Éternel, c'est que son âme se préoccupait, il ne se préoccupait pas de son corps, où ce qu'il était. Sa situation de roi en train de fuir son fils pour prendre son trône. Il était préoccupé à son âme, à ce que la manière qu'il dit, Seigneur, je veux que je sois habité dans ta maison. Et là, j'étais béni dans ta maison. Alors, c'est ensemble, il donne libre cours à ses sentiments devant Dieu. Se confier avec sincérité. Synonyme de sincérité, tu peux regarder ton dictionnaire, c'est s'abandonner, se livrer, s'ouvrir devant Dieu. Et souvent, ça se fait dans personnel, peut-être. En groupe, c'est plus difficile, mais ça arrive parfois quand on est disposé dans une rencontre où on a la liberté d'ouvrir nos cœurs. C'est un peu comme je vous ai dit, cette expérience de Longueuil. On est parti de Longueuil, on s'est emmené ici au Nouveau-Brunswick. Tout le long, c'est pas pire, il y a toujours bien 5 heures de route. Longueur, on y récite un bon 5 heures, là. Et là, on était encore épris, notre âme. Et tout le long, on louait Dieu, on confessait, on réclamait sa présence. Puis tout le long, en tout cas, c'était la première fois qu'il y a un 5 heures qui se passe vite de même dans le voyage. Mais il y avait cette soif-là qui a continué pour la semaine. En tout cas, toute la semaine, on sentait cette bénédiction encore rendue chez nous. Mais chaque bénédiction est accompagné de tests. Hein? Quand on est béni aujourd'hui, il y a un test parfois, parfois, souvent, quand on a des grandes bénédictions, il nous faut absolument avoir goûté l'eau de Dieu, un peu comme la Samaritaine, et si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Si je bois de l'eau là, de la citerne, je vais avoir soif encore 10 minutes après. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs, au travers de ce qu'on peut vivre. Si l'Éternel est là, n'oublions pas cette toile d'araignée sur nos problèmes, peut-être, au lieu de nous envahir, la toile d'araignée qui nous rappelle les bontés de Dieu, la communion avec lui, va empêcher l'adversaire de venir nous détruire à l'intérieur de nous, par nos pensées, nos regards, tout ce qui peut être dérangeant pour nous empêcher dans la louange. On a besoin de ressentir, ça veut dire d'éprouver une sensation, un sentiment. Synonyme, on pourrait dire éprouver, sentir, connaître, goûter. On dirait qu'il y a un ressentiment, il y a des choses qui vont arriver. Hein, avez-vous? Vous autres les femmes, vous avez votre deuxième sens. Des fois, on dirait, je viens avec ça moi aussi, un deuxième sens. On peut voir d'avance qu'est-ce qui va arriver dans quelques minutes. Les choses ne changent pas. Les choses du monde, on n'en parlera pas, mais quand j'étais tout jeune, j'avais pensionné dans un hôtel. Ce n'est pas la place de sanctification, mais je n'étais pas chrétien à ce moment-là. Mais le fait que ça ne nous coûtait pas cher, parfois, c'était une place qui s'était reconnue pour des batailles. Et puis je pouvais dire à la propriétaire d'y asseoir, là, il va y avoir de la bataille ce soir. On sent ça. Et ça ne manquait jamais de coup. Il y avait toujours une bataille qui arrivait. Vous savez, quand dans un hôtel, quand il y a de la bataille, les chaises rollent, les tables, puis là. Mais je sentais ces genres d'émotions-là de dire que ce soir, vous allez avoir de la bataille. Ça va détruire. Et c'est pour ça que parfois, il nous faut être à l'écoute de qu'est-ce qu'on nous pouvons vivre. Et spirituellement, c'est la même chose. Ah, à soir, je serai béni. Je me rappellerai d'une dame au début du culte, elle dit, j'ai la conviction que je viens chercher ma guérison ce soir ou ce matin. Et puis, Dieu a exaucé sa prière. Elle avait été guérie ce matin-là. Elle venait par la foi. Je viens chercher ce que j'ai de besoin. Peut-être que ce matin, en vous emmenant, je m'en viens chercher ma victoire, ma guérison, ma libération, ma paix en l'intérieur de moi-même. Au travers de la tempête, on peut avoir la paix. Regardez les oiseaux, les hirondelles, la grosse tempête. Lui, dans son nez, puis il sait comment mettre son nez quand il est tout collé en dessous. Là, hein? Des ponts, on voit ça souvent, les hirondelles. Là. Qui a une tempête ou qui mouille, ça le dérange pas, il est à l'abri. Il est en sécurité. Et nous, on a celui qui est l'auteur de la création. Et quand il arrive ce moment-là, lui est capable de nous donner la sécurité. Contemplez, dans ce psaume 27, verset 4 qu'on a lu, ça traduit par, le mot contempler, c'est traduit aussi dans d'autres versions par admirer. Admirer. Il connaissait que satisfait, contempler l'invisible. On contemple l'invisible pour toucher l'intouchable. Ça, c'est la prière de la foi. Vous comprenez? Contempler l'invisible et toucher l'intouchable. Parce que David avait vécu l'expérience. Psaume 42, versets 2 à 5 et 2 à 6. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi, David dit, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il y a soif. Continue. 2, 4, 5. Ah, peut-être que c'est là, peut-être que c'est moi qui lis. Ah, c'est ça. Excuse, ma soeur, m'excuse, c'est moi qui n'ai pas habitué à ça. Là. À mon âge, on n'avait pas cette technique-là. Là. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. OK, je ne sais pas le mort, le Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Puis là, il va dire, exprimer, pourquoi t'abats-tu, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi ce matin t'abats-tu, mon âme? Espère en lui. La batterie est en forme. Ce serait l'heure que je termine, mais rien que la moitié. Souviens-toi, après une telle expérience, on a besoin d'être mis à l'épreuve. Et David vit cette épreuve après avoir goûté toutes ses expériences d'intimité avec Dieu. Et alors, c'est une tentation de la vie. On veut dire, bon, si j'ai une grande bénédiction, qu'est-ce qui va m'arriver demain? J'ai un coup de téléphone cette semaine. Ma soeur m'appelle. Jamais qu'elle fait ça. C'est moi qui appelle toujours. Elle m'annonce que elle a perdu l'usage d'un œil. D'un coup sec demain. Je me suis levé un matin, je ne vois plus rien. Une inflammation de l'air, de nerf, je ne sais pas trop comment ils disent ça. Là. C'est une inflammation où elle n'a pas senti aucun symptôme. Elle dit, je ne vois plus. Et l'œil qui a causé ça, c'était l'œil gauche, si c'est traduit sur l'œil droit, puis c'est lui qui a perdu tout, qui ne voit plus. Et l'autre a baissé, en somme, à 60 % ou je ne sais pas trop, en tout cas, c'est tout embrouillé encore aujourd'hui. C'est spontané, la vie. Tu ne sais pas. Elle s'est couchée, elle s'est levée le lendemain matin, comme ça. Elle dit, je ne vois plus rien. Ah. Elle dit, veux-tu prier une petite prière, mon frère? Oui, je peux bien prier une petite prière à mon grand Dieu. Pour venir à ton secours. C'est rien que ça qui les pousse à prier, pas vrai? Hey, mon frère, veux-tu faire une petite prière pour ta sœur? Il dit, je peux faire ça pour toi, devant mon grand Dieu. On verra les résultats dans le futur, mais voilà la priorité. Quand j'avais dit qu'il ne faut pas ambitionner, j'avais terminé, il y avait une place où ce qu'il dit concernant, OK, ouais, la dernière raison, parce qu'il y en avait quatre, je n'ai que touché une, moi aller à la quatrième suite, élever, là, vous allez être content parce que, élever des mains pures. Pures. Sans anicroche, sans rien. Parce que c'est l'expression de tout ton corps. Comment veux-tu louer? Le corps a des bras qui s'élèvent vers Dieu pour louer le grand Créateur. Il nous dit ceci. C'est bon parce que élever nos mains. Parce que je ne peux pas élever ma bouche. Avez-vous les lèvres qui sortiraient de... Mais ça, je peux lever ça. Je peux lever mes bras, exprimer une louange à Dieu, une reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Fait quand tu lèves les lèvres, tu articules des paroles de louange, pas comme on a fait ce matin, et on répète mon être, mon corps et mon âme et mon esprit est élevé par mes paroles, mais aussi en même temps avec mes bras. Mais ici, vous n'avez pas de problème. C'est merveilleux. Chez nous, les gens sont gênés, je ne sais pas. Ils n'ont pas nettoyé les ongles, peut-être, pour louer, c'est ça. Mais ici, je suis béni. Parce que vous n'avez pas peur d'élever vos bras. Signe de quoi vous louez Dieu. Parce que toute votre aide témoigne cela. Comprenez-vous? Quand tu fais ça, c'est pas que par habitude. Tu élèves une louange à Dieu. Tes bras s'identifient à ta prière. Puis après ça, ça c'est dans Jean 17, verset 1. Je pense que je ne l'ai pas donné parce qu'il y avait trop d'autres versets. J'avais-tu donné Jean 17? Vas-y donc, ma chère. Hein? Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Il lève les yeux. Nous aussi, on lève les yeux vers l'Éternel. Il y a aussi l'autre passage. Les yeux représentent aussi toute notre être entier, pas vrai? Troisièmement, lever les mains, ça signifie aussi présenter toute mon être. Mes mains, tout mon être entier est présenté. Et lorsque nous prions et lever les mains, nous nous consacrons de nouveau à Dieu. Dans le psaume 143, le verset 6, il va nous dire ceci. « J'étends les mains vers toi et je me sens devant toi comme une terre aride. » Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux. L'autre, je te l'avais pas donné, 143, 6, le psaume. La machine est stallée, je pense, là. Et Jérémie, c'est assez. OK, c'est pas grave. Peut-être que non. « J'étends mes mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre altérée. » Mais c'est au nom de Dieu que David veut lever les mains. Pas pour paraître, ni pour passer pour plus intelligent qu'un autre, de vivre une intimité avec Dieu plus qu'un autre. C'est que David, rappelez-vous, dès son jeune âge, était loin de l'Esprit de Dieu pour devenir un jour le roi d'Israël. Et ça, il n'a pas eu... Quand il a eu cette bénédiction, cette effusion de l'Esprit, il n'a pas été roi le lendemain. Ça a pris du temps avant de l'aller. Il a été éprouvé. Et c'est tout probable que nous-mêmes aussi, on a besoin d'être éprouvé. Savez-vous que Samuel... Ah non, j'ai dit que j'allais finir. OK. On va lire au moins le dernier verset. 1 Timothée 2:8. On va terminer avec lui. Parce que Samuel... Vous savez, David, un jour qu'il a commencé à louer Dieu avec toutes les listes qui suivaient, il dansait et puis il était heureux, comprenez-vous? Et là, sa femme l'a regardé au travers de la fenêtre. Elle a trouvé son mari, la fille du roi Saül. Et puis, elle l'a trouvé excité. Ce n'était pas digne de son rang de manifester tant de reconnaissance envers Dieu en chantant puis en louant Dieu. En tout cas, elle l'a trouvé déplacé. Elle trouvait déplacé que son mari, le roi d'Arville, exprimait devant Dieu sa louange, sa reconnaissance. Elle l'a trouvé exagéré. Et suite à toutes ces choses-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Michaël, qu'elle s'appelait, dans 2 Samuel, je vous dis, 2 Samuel 6, versets 5, 16, 20, 23, qui nous donne le contexte de ces choses-là qui sont arrivées. Et le résultat de son malentendu, de son jugement, de sa critique, elle a été stérile pour le restant de sa vie. Le résultat, 2 Samuel 6, les versets 20 à 23, où est-ce que nous lisons cela. Et ça nous amène à 1 Timothée pour finir. Et là, c'est vrai. Je suis censé de prêcher la vérité, moi, mais des fois, il y a des erreurs qui m'échappent. Mais on va lire le dernier passage, nous savons. Je veux donc que les hommes paient, prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Prions Dieu. Notre Seigneur, on veut te bénir et te louer ce matin. Faire monter vers toi nos louanges et nos actions de grâce. Viens bénir ton peuple ce matin, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Étends ta main puissante sur eux, sur toute leur joie, leur peine, leur déception, le découragement. Mais Seigneur, que la paix puisse surpasser toutes ces choses-là et que la paix de Dieu puisse envahir ton peuple ici ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et le peuple dit Amen. Seigneur, vous bénisse. J'aimerais vous dire...